Bookmakers.
Les écrivains au travail par Richard Guettet.
Sur Arte Radio.
Tu sais, les femmes sont libres maintenant. Elles peuvent lyncher tous les hommes. Elles peuvent les couper en menus morceaux. Elles peuvent prendre leur revanche des siècles de servitude. Bientôt, elles pourront faire la guerre. C'est cela que tu voulais, n'est-ce pas? Tu voulais jouer avec les petits soldats de ton frère. Toi aussi, tu peux atteindre désormais les sommets d'exaltation où s'étreignent Eros et Thanatos.
D'après Nancy Houston, le roman naît de la rencontre de l'autre, qui apporte l'ironie et l'incertitude. Pour devenir écrivain ou écrivaine, elle conseille de développer les qualités suivantes. L'écoute, l'observation, la suspension du jugement. Et puis, une alternance savamment orchestrée entre mégalomanie et modestie. Cette transfuge linguistique franco-canadienne, qui se sent par ailleurs profondément berrichonne, adepte de sujets transgressifs, comme l'infanticide ou la pornographie, l'inceste ou la nymphomanie, et qui vient de publier à 70 ans Francia, roman documenté d'une journée dans la vie d'une prostituée transsexuelle colombienne du bois de Boulogne, se compare littérairement à un serpent. Affamée des souvenirs des autres, addicte aux êtres humains, cette conteuse hypersensible adore se glisser sous de nouvelles peaux pour, je cite, « explorer les joies du déguisement ». Poussée par ce qu'elle nomme son empathie désespérée. Selon elle, asséner son point de vue dans un roman, c'est le gâcher. Je veux voir le monde de plusieurs points de vue et relativiser l'un par l'autre. Ce deuxième épisode promène donc sa focale dans les collines romanesques de l'impressionnant corpus houstonien. Sont évoqués son premier roman, Les Variations Goldberg, en 1981, qui permet de revenir sur sa pratique du piano et du clavecin. La terrible Histoire de Maya, en 1985, sur le trauma d'une jeune femme suite à un viol. Cantique des Plaines, en 1993, à propos des souffrances amérindiennes dans sa région natale de l'Alberta, écoulée à 82 000 exemplaires. Une Adoration, en 2003, polyphonie judiciaire autour de l'assassinat d'un comédien, et dont l'écriture a survécu à un faux départ, ou enfin, Francia. 3, 2, 1, let's go to Houston. Nancy Houston, votre ami, le journaliste et écrivain Michel Butel, qui fondera en 1984 l'autre journal, vous donne ce conseil si simple et essentiel. N'écris jamais un texte que quelqu'un d'autre que toi pourrait écrire. Cela résonne comme un gong. Votre premier livre publié ressemble nettement à un texte que personne d'autre que vous n'aurait pu écrire. Il sort en 1979 aux éditions Ramsay et n'a pas été réédité. J'ai devant moi l'un des exemplaires originaux et l'ouvrage, dans le fond comme dans la forme, est très original, en démarrant par son titre provocateur « Jouer au papa et à l'amant », sous-titré « De l'amour des petites filles ». C'est une série d'analyses littéraires, de réflexions psychanalytiques et de très nombreuses interviews de pères et d'anciennes fillettes sur leurs relations quand celles-ci débordent très clairement du cadre parental ou amical. Vous interrogez le goût des hommes pour ce qu'on a longtemps nommé les nymphettes ou, suite au roman de Nabokov, des Lolita. Vous y abordez votre histoire avec ce professeur de 10 ans votre aîné, le temps de deux pages très troublantes où vous mentionnez les coups que vous avez consenti une fois à recevoir par amour, sous emprise, un soir, lors d'une expérience érotique, sans savoir que vous seriez frappé 18 fois au visage jusqu'aux larmes, larmes qui n'arrêtent pas la violence de votre compagnon. Au milieu de la scène, vous vous adressez au lecteur. Avez-vous plaisir à lire ce récit? J'ai plaisir à l'écrire. La phrase est étonnante.
Et la littérature, c'est souvent ça. C'est de transformer quelque chose de très violent, de très sombre, en quelque chose qui peut être partagé avec d'autres parce qu'on lui a donné une forme. Si vous imaginez une société heureuse, ce sera une société sans littérature.
Vous avez dit, c'est sans doute à ce trauma précoce que je dois d'avoir trouvé insupportable certaines pages signées par des pédophiles délicats. Car l'enjeu principal du texte est de dénoncer ce que vous nommerez 40 ans plus tard la pédophilie chicos, qui sévissait à Saint-Germain-des-Prés. Dans Libération, en 2020, vous direz « Il y a 40 ans, il ne faisait pas bon dénoncer la pédophilie en France. Oh, pas celle secrète et insidieuse des curés, pas celle brutale et béotienne des violeurs de classe populaire, celle qu'il fallait approuver était celle distinguée et élégante de certains hommes de lettres parisiens. »
À cette époque, quand on remettait en cause, on essayait de dénoncer ce type d'agissement, on nous accusait d'être du côté de la droite, de la répression, de la réaction, on était réactionnaires, et donc on rentrait dans notre trou, on se taisait. Moi, je n'avais pas ces mêmes complexes que les Françaises de mon âge et mon milieu, et comme j'avais fait sous l'égide de Léla Sébar, j'avais participé à un numéro des Temps modernes sur les petites filles en éducation. On était allé discuter avec Simone de Beauvoir chez elle, je me rappelle. J'avais été très, très impressionnée et émue. Avec une amie, Yasmina Sali, on avait réalisé des interviews d'hommes sur leur rapport aux petites filles. Je pense que toutes les deux, on avait été traitées comme des nymphettes et ça nous avait profondément exaspérées d'être réduites à notre corps. Et on avait envie de voir ce qu'il en était des opinions, des idées, des images, des souvenirs des hommes à cet égard. Donc on avait interviewé une dizaine d'hommes et j'ai fait d'autres interviews après. Ensuite, le livre lui-même, c'était important pour moi de faire appel aux différentes théories psychanalytiques qui étaient en vogue à ce moment-là et qui décrivaient les différences entre garçons et filles de façon un peu choquante. Et puis, le canon littéraire autour des petites filles et la manière dont les femmes sont constamment, lorsqu'elles lisent, elles sont mises à la place des hommes qui regardent les femmes. Et donc, elles sont amenées à s'identifier à un regard masculin, le fameux male gaze, sur leur propre corps. La littérature nous a toujours fait ça. Bien avant l'invention du cinéma, on a toujours été amenés à se regarder de l'extérieur, à s'identifier, parce qu'on supposait tous les lecteurs masculins, et donc la femme se met à la place d'un lecteur masculin, et elle regarde, elle est Humbert en train de regarder Lolita, et ainsi de suite. Donc j'essaie d'analyser un peu tout ça en même temps. Le livre a aussi des passages autobiographique, c'est un patchwork, peut-être pas totalement maîtrisé, mais mon projet était ça, de proposer une sorte de mosaïque de points de vue sur ce rapport homme-petite-fille.
Vous soulignez les scènes de torture sur adolescentes dans les livres d'Alain Robbe-Grillet, le pape du nouveau roman, qui écrit n'avoir nullement honte de mettre en scène ces attentats contre le corps des femmes, le crime sexuel ayant selon lui un rôle privilégié dans l'affirmation du moi. Vous recopiez les paroles d'un personnage de violeur de vierges en série, toujours actif à 80 ans, qui est applaudi quand il décrit ses techniques dans le roman de Roger Vaillant, La Loi, Goncourt 1957. Et bien sûr, vous revenez à plusieurs reprises sur le cas de Gabriel Mazneff, qui a publié pendant 40 ans une quarantaine d'ouvrages édités par Gallimard ou La Table Ronde, dont la plupart sont largement autobiographiques et mettent en scène ses aventures sexuelles avec des mineurs, recevant de nombreux prix, des bourses, les félicitations du gratin médiatique, ce qui cesse grâce au précieux témoignage de Vanessa Spingora, Le Consentement, qui dénonce en 2020 les abus dont elle était victime adolescente et la complaisance infecte du milieu littéraire. Vous direz, je ne comprenais pas que des diplômes ou d'avoir publié des livres puissent conférer une immunité aussi sacrée que celle du roi soleil. Vous n'étiez pas la seule à trouver tout cela dérangeant enrageant et pas du tout subversif comme ses auteurs pouvaient le faire croire à l'époque. Citons votre amie Leïla Sebar dans son essai « Le pédophile et la maman » en 1980, ou la journaliste québécoise Denise Bombardier, qui fut la seule à s'opposer à Gabriel Matzneff sur le plateau d'un sinistre numéro d'Apostrophe présenté par Bernard Pivot sur Antenne 2 en 1990. Vous rappellerez aussi plus tard que Roland Barthes a bénéficié lui aussi de cette impunité. En témoigne le journal de son tourisme sexuel au Maroc, publié de façon posthume sous le titre « Incident » en 1980, où il nomme par leur prénom une quarantaine de jeunes garçons, âgés de 17 à 20 ans, payés, je mets des guillemets, pour lui faire l'amour. Avez-vous eu des difficultés à faire éditer ce texte-là? Comment parvient-il aux éditions Ramsay?
Ce premier livre était une commande. J'étais toujours avec mon premier petit ami qui avait des origines berrichonnes. Il dirigeait une collection chez Ramsay. Il n'y a pas eu beaucoup de ventes. Il y a eu des petites réactions ici et là. Mais je me rappelle un article dans Gay Pied, qui était le journal des homosexuels à ce moment-là, qui parlait ensemble du livre de Leïla Sebar, Le pédophile et la maman, et du mien, Jouer au papa et à l'amant, en disant que nous étions... moi, je crois que j'étais le sergent Houston et elle, le colonel Sebar. C'est dire à quel point on était juste renvoyés au pouvoir militaire. Et il disait que nos deux livres avaient été publiés aux éditions Quai des Orfèvres, c'est-à-dire le QG de la police. Voilà. Autrement dit, toutes celles qui osaient mettre en doute la pédophilie chicos, nous ne pouvions être que des flics.
Sur la première page de « Jouer au papa et à l'amant », on peut lire « Pour Tarpanima, après tout ». Qu'est-ce que ça veut dire?
C'était le nom bouddhiste de mon père.
Et juste en dessous de cette dédicace mystérieuse, on trouve une citation du poète belge Henri Michaux. « J'écris afin que ce qui était vrai ne soit plus vrai ».
Oui, j'essaie de d'écrire ce qui est, que l'on se rende compte que ça ne va pas. Donc ce qui est vrai maintenant, que ça ne soit plus vrai demain. Personnellement, je ne fais aucune confiance à la vérité. Il n'y a que les mensonges qui m'intéressent, les miens en particulier. Même enfant, j'aimais mentir. Et depuis que j'écris, le mensonge est devenu ma passion dominante.
Nancy Houston, instrument des ténèbres.
C'est le moment de parler de l'une des grandes affaires de votre vie, la musique, qui enchante, structure ou nourrit nombre de vos ouvrages. Vous jouez du piano, du clavecin, de la flûte. Le piano vient en premier et de loin. L'une des rares fois où votre mère a formulé un rêve à votre sujet, c'est celui-ci. Un jour, tu monteras sur scène dans une longue robe blanche pour jouer du piano et les gens t'applaudiront à tout rompre. La scène apparaît dans votre roman « Prodige ». Votre mère et sa sœur étaient de bonnes pianistes, un peu prodiges justement. De quel âge à quel âge avez-vous étudié la musique classique qui vous apprend à exprimer vos émotions, à jouer tantôt fort, tantôt doucement?
J'ai fait du piano de 5 à 18 ans. Ensuite du clavecin de façon très intensive de 18 à... 40. Et je suis revenue au piano à 50 et quelques. En fait, le piano, c'était le meilleur et le pire de mon enfance. La pesanteur et la grâce. Je reprends le titre de Simone Veil. C'était le pire parce que c'était le trac, c'était des concours, c'était la course à l'excellence, c'était tout ce qui m'angoissait, me stressait, me faisait me sentir insuffisante. Quand je jouais des morceaux que je pensais maîtriser parfaitement devant des juges, je perdais complètement mes moyens et je devenais une flaque d'angoisse.
Le piano te sera classe de littérature, peut-être même la plus importante de toutes. D'abord parce que tu y acquériras le goût du travail minutieux, patient, maniaque. Le plaisir de changer le monde en décortiquant, lissant, répétant, reprenant 20 fois, 100 fois une phrase.
Nancy Houston, bad girl.
Vous avez une fois vu votre mère en rêve, votre mère morte à l'intérieur d'un piano, morte et vivante en même temps, parce qu'elle vous tensait en vous ordonnant de travailler encore vos gammes.
Je crois que ça, c'est un rêve de personnage. Une fois, il y a eu un voisin chez nous à Calgary. J'avais peut-être 12 ans, je raconte ça dans une nouvelle qui s'appelle Les Souliers d'or, et qui m'a appris à jouer un petit peu de jazz, j'allais dire de black music, comme ça. Il n'était pas noir lui-même, il était peut-être à moitié indien, à moitié autochtone. Et il avait un tout autre rapport à la musique, et beaucoup plus libre, beaucoup plus du côté de l'improvisation. Et il m'a initiée à cela, et je l'ai senti comme quelque chose d'infiniment désirable. Et mon père a refusé que je laisse tomber les leçons classiques. Et je suis restée coincée dans une pratique très, très névrotique aussi du piano. J'apprenais des morceaux par cœur que je pouvais faire de façon un peu spectaculaire, mais je ne me sentais pas en train de m'exprimer moi-même. Ça pouvait être de la grande valse de Chopin, par exemple, mais aussi un type qui s'appelle Sinding, je me souviens, Frühlingshausen, le frémissement du printemps, qui est un morceau un peu de virtuosité superficielle. Voilà, j'ai maîtrisé ça autour de l'âge de 12-13 ans.
Puis, heureusement, vous avez découvert une autre approche du côté du partage et du plaisir en jouant du clavecin pendant 20 ans. C'est un instrument que vous trouvez plus modeste, sans grosse surprise, contenu, contrôlé, que vous comparez à la langue française. Pour vous, le français est une langue avec beaucoup de règles, très raisonnable, voire monocorde. En quoi le français est-il raisonnable ?
Je ne suis pas du tout une vraie bilingue, je ne suis pas quelqu'un qui parle deux langues de façon interchangeable. Ça ne peut être le cas que des gens qui apprennent deux langues en même temps dans l'enfance. Donc le français, pour moi, coïncide avec l'âge de l'adolescence. Je suis déjà moi-même dans toute ma misère et ma splendeur. Et ça veut dire que c'est une langue qui reste complètement dans le cerveau gauche, raison pour laquelle je ne peux pas jurer de façon efficace en français, parce qu'il ne fait pas appel aux vraies émotions. Alors, le clavecin est un instrument qui est monocorde, effectivement, dans ce sens où ça ne sert à rien de taper plus fort ou moins fort sur les notes. Vous touchez une touche de clavier de clavecin, ça pince une corde. C'est véritablement comme une harpe, d'où le mot harpsichord en anglais. Si vous tapez plus fort, vous allez avoir le bruit de la note, le bruit du bois, mais non pas un son plus puissant. Pour faire un son plus puissant, vous devez changer de registre. Vous pouvez doubler, vous pouvez avoir les deux claviers qui sonnent en même temps, vous pouvez ajouter un 4 pieds, un 8 pieds, mais vous ne pouvez pas frapper plus fort. Mes doigts volaient sur le clavier dans une véritable orgie de pureté. Une orgie de rigueur. Donc c'est déjà une façon de contrôler ma colère. Je pouvais jouer devant des amis, donner des petits concerts. J'avais beaucoup moins le trac, étrangement, avec le clavecin que le piano.
Mais je vous repose donc la question, en quoi le français est-il raisonnable ?
J'ai vraiment dit ça ?
Ah oui.
Le français du côté du surmoi, c'est une langue où nous sommes toujours obligés de se surveiller de l'extérieur, d'avoir une petite lumière allumée. Est-ce que j'ai bien fait l'accord du féminin masculin ? Est-ce que j'ai fait le participe passé ? J'ai pas oublié d'indiquer que c'était au pluriel. Un petit flic dans la tête à chaque instant, qui peut-être m'a aidé aussi à tenir pendant ces premières années où je fourbissais mes armes d'écrivaine. Les notes des maîtres passent par ton corps et ton âme, et une structure est donnée au chaos. Après 20 ans à l'école de Bach, Mozart, Beethoven, Schubert, Chopin, tu seras mûr pour écrire ton premier roman.
Comme par hasard, votre premier roman, Les Variations Goldberg, est entièrement structuré autour de cette composition pour clavecin de Jean-Sébastien Bach, qui remonte à 1740 et qui doit son nom à un élève de Bach qui, selon la légende, les jouait pour un conte russe insomniaque comme vous. La première phrase du roman est « Vous avez 96 minutes ». C'est la durée des Variations Goldberg, dans la version interprétée par Glenn Gould, qu'une femme, Liliane, joue chez elle en entier devant 30 personnes qu'elle aime. Vous l'écrivez directement en français. Alors, j'ai pas trouvé ça si simple de rentrer dans ce livre. Il est assez technique en termes de musique classique et la multiplicité des voix m'a un peu perdu. Il y a en outre de petites coquetteries de forme. Des chapitres se terminent au milieu d'une phrase, d'autres commencent au milieu d'une autre. Quel regard portez-vous sur ce premier geste romanesque 42 ans plus tard ?
C'était extrêmement important de me lancer dans la fiction. C'était l'année après la mort de Roland Barthes. Je me suis sentie libérée pour aborder la fiction une fois qu'il n'y avait plus le regard du maître par-dessus mon épaule. En même temps, on peut voir la trace de Roland Barthes dans ce formalisme que vous soulignez, très structuré, presque trop. S'il y a des chapitres qui commencent au milieu d'une phrase et qui finissent au milieu d'une phrase, c'est que nous sommes dans la tête de chaque auditeur de ce concert, chez Liliane. Le livre a eu vraiment un accueil très chaleureux, inespéré, je dirais. Il a eu même des petits prix, etc. J'étais aux anges. C'est la plus belle expérience d'écriture peut-être de ma vie. Je n'ai jamais écrit du début jusqu'à la fin dans l'euphorie, comme je l'ai fait cette fois-là. J'étais en Italie, j'étais à Urbino. J'avais exactement 3 semaines et j'avais tout calculé pour que je puisse faire les 30 chapitres plus les 2 arias en écrivant matin et après-midi. Je changeais d'habit pour changer de personnage.
Donc vu qu'il y a 30 personnages, vous avez 30 tenues pendant l'écriture.
J'avais apporté une valise anormalement grosse. Je me changeais après le déjeuner. Je n'essayais pas de me déguiser en tel ou tel personnage. J'avais juste besoin d'être quelqu'un d'autre. C'était mes habits et je les changeais pour me sentir neuve quand je revenais à la page blanche. Et je précise que c'est là que j'ai découvert un truc qui m'a toujours aidée à écrire, c'est de ne pas avoir l'angoisse de la page blanche parce que je n'ai pas de page blanche, j'achète des pages de couleur. Et cette fois-là, c'était des pages d'un jaune vif, presque doré. Et je n'oublierai jamais la joie de sentir la pile de droite en train de devenir de plus en plus petite et la pile de gauche de plus en plus grande et les pages dorées qui passaient, qui passaient, qui passaient. Donc tout était à la main. Je n'avais pas d'ordinateur, je crois que je n'avais même pas de machine à écrire avec moi cette fois-là. Je me suis dit, je vais faire 5 pages par matinée et 5 pages par après-midi. C'est énorme, 10 pages par jour. C'est énorme, ça demande une énergie. J'étais complètement allumée. Je commençais la journée en écoutant la variation correspondante jouée par Gould. Et à la fin, quand j'avais eu terminé les 5 pages, je la jouais à la flûte. Pour dire c'est fini. Et ensuite, je recommençais l'après-midi avec la variation suivante. Ai-je bien joué ? Je n'en ai aucune idée. Les notes sont venues. Je les ai tirées les unes après les autres de l'instrument. Je leur ai permis de sortir. J'ai essayé de ne pas trop leur faire violence. J'avais peur parfois. En jouant avec tout cela, de ne pas le maîtriser. N'était-ce pas plus fort que moi ? J'avais peur de tout laisser tomber, mais je voulais prendre le risque. Je suis assez heureuse du déroulement de ce rituel.
Nancy Houston, Pérégrination Goldberg, adapté du roman Les Variations Goldberg.
Vos Variations Goldberg sortent aux éditions du Seuil en 1981, l'année de ma naissance. Vous avez 28 ans. Comment avez-vous réussi, dès le premier roman, à être publié par l'une des plus importantes maisons françaises ?
J'étais très amie avec l'écrivaine que vous avez citée, Pierrette Flotiot, qui a lu mon manuscrit et qui en a parlé à un éditeur chez Gallimard, qui l'a accepté, qui était très enthousiaste et qui a dit « je pense qu'on peut le faire ». Et là, j'avais une carte à jouer, en quelque sorte, vis-à-vis du Seuil. Mon rêve était d'être dans la collection Fiction & Co. de Denis Roche, que je connaissais, dont j'avais lu plusieurs livres, parce que j'avais envie de faire de la fiction et de la non-fiction. Et donc, c'était un idéal pour moi. C'était une collection du seuil. Je crois que j'ai dû faire une lettre, si je me souviens bien, pour accompagner le manuscrit chez Denis Roche, pour dire qu'il y avait Gallimard qui s'y intéressait.
Malin. Par la suite, vous incorporerez souvent des personnages de musiciens à nombre de vos romans, des chansons à toutes vos pièces de théâtre. Vous vivez la littérature en mélomane. La musique, dites-vous, est profondément votre stratégie. Alors le mot m'a surpris.
C'est ma stratégie de survie. J'ai une ouïe surdéveloppée. Si je suis en train de couper des tomates ou des carottes ou des oignons, ça fait une musique différente. J'anime depuis quelques années un atelier d'écriture, de poésie musicale. J'apporte des instruments de musique. Pour moi, le corps est un instrument de musique. Donc, pour moi, la pire chose, c'est l'immobilité. C'est l'image de la pierre. Et je ne veux pas être transformée en pierre.
Tous vos romans démarrent par des citations de grands auteurs, de grandes autrices, juste avant votre première phrase. Au minimum, une citation, souvent deux, parfois quatre. Pourquoi ?
Des citations en exergue. Je me mets sous la protection de ces auteurs. C'est mes anges gardiens. C'est aussi pour mettre les lecteurs et lectrices dans un état de réceptivité, pour leur annoncer à quoi s'attendre, quelle sera la tonalité des paysages qu'on va explorer.
Vous avez dit « Tous les matins, quand je me mets à mon bureau, je ne suis pas là pour m'exprimer, mais pour écouter mes personnages et explorer les joies du déguisement. » Littérairement, vous vous comparez parfois à un serpent.
Parce que je change de peau et parce que je me glisse en reptation d'un monde à l'autre. J'essaie toujours de revaloriser des choses qui ont été dévalorisées. Les sorcières, les serpents en font partie. Oui, s'exprimer, c'est exactement la plus mauvaise chose qu'on puisse vouloir faire. Si j'anime un atelier, je vais dire ça tout de suite. N'essayez pas de vous exprimer. Forcément, vous allez vous exprimer, vous ne pouvez pas vous en empêcher. Mais si c'est le but de l'opération, vous allez être maladroit et malheureux.
Vous dites aussi que même quand vous fréquentiez dans l'intimité d'épais malotrus qui vous envahissaient de leurs paroles, vous les supportiez en souriant, car vous étiez en train d'enregistrer leurs comportements, certaines de prendre un jour votre revanche en les transformant en personnages, en décidant à quel moment ils allaient l'ouvrir ou la fermer.
Maintenant, je ne les supporte plus. Je pars.
Lors de ma traversée de votre œuvre, l'un des moments les plus troublants a été « Histoire d'Omaya », paru en 1985 au Seuil. J'aimerais qu'on s'arrête un moment sur ce livre assez dur qui vous a brûlé la tête et les doigts, écrit en hiver et dont vous n'êtes pas sorti indemne. « Histoire d'Omaya » raconte l'univers intérieur ravagé d'une jeune femme fragile, portée sur l'affabulation, peut-être sujette à des crises hallucinatoires, qui échoue à faire reconnaître par la justice le viol collectif qu'elle a subi par trois hommes. Le livre a été construit à partir d'un drame réel. S'il n'est pas trop difficile pour vous de parler de ça, c'est quelque chose qu'une amie est venue vous raconter. Vous avez assisté au procès des accusés ?
J'étais plus amie avec une des avocates de la plaignante. J'ai rencontré la plaignante un peu plus tard. Je l'ai interviewée une fois. Et après avoir écrit une première version du livre, je le lui ai montré parce que je ne voulais pas qu'elle puisse être choquée ou blessée d'aucune manière par les libertés que j'avais prises par rapport à son histoire. Donc j'ai dit, c'est vraiment un roman, ce n'est pas ton histoire. Et à mon grand étonnement, elle m'a dit... Certains aspects d'Omaya, notamment son homosexualité, étaient juste vrais. Donc il y avait des choses que j'avais comprises qui ne faisaient pas partie du récit public.
Pour ce livre, vous avez travaillé avec des images hypnotiques. Le livre est construit par collage, par juxtaposition de scènes, parfois très brèves, qui se déroulent avant, pendant et après le viol, de façon non chronologique. Vous alternez sans explication, sans changer de chapitre, des dialogues, des flashs, des réminiscences, la parole des juges et la parole de la victime, ou des conseils pratiques pour fuir la violence masculine.
J'ai en fait fait des codes couleurs pour chaque type d'événement. De l'enfance, de la scène du procès, de la scène du viol, des scènes de psychothérapie aussi. Voilà. et j'ai mixé tout. Il n'y avait pas encore d'ordinateur. Hein. Et la structure des couleurs dans ma version donc intuitive, simplement, était sensée. Ça faisait un morceau de musique.
L'opacité relative de la langue que vous utilisez pour ce roman, le mystère de certaines images, la narration complexe, tout ceci a vocation à traduire la détresse émotionnelle d'Omaya, les conséquences psychiques de son traumatisme, quitte à perdre des lecteurs en route.
Effectivement, j'ai peut-être trop compté sur l'empathie et la patience des lecteurs. Je n'aurais pas tendu un fil narratif suffisamment solide pour qu'ils se sentent bien dans le livre. Et là, c'est ces pensées qui sont vraiment fracassées, qui sont en petits morceaux. Et je pense que ça, c'est assez réaliste. Je ne le changerais pas. Si j'avais à le refaire, non. Peut-être qu'il toucherait un autre public si je le publiais juste aujourd'hui pour la première fois. Peut-être qu'il y aurait une autre écoute. À l'époque, c'est un livre qui est presque passé inaperçu.
Le roman contient aussi ce qui ressemble à d'étranges petites nouvelles douloureuses, possiblement tirées de l'imaginaire abîmé de la victime. Voulez-vous nous lire cet extrait ?
Une femme artiste est amoureuse d'un homme artiste. Sculpteur et passionné des anagrammes. Il lui dit « Rose au cœur violet. Cœur violet osa tuer. Coup ouvert sera loi. » Il lui dit « Le corps est comparable à une phrase qui vous inviterait à la désarticuler. » Dans une lettre d'amour, il la remercie pour « ta passion de te décomposer scrupuleusement devant moi hier soir. » Il dit que ce soir-ci, il voudrait lui relever la peau à partir de la croupe, le long du dos jusqu'à voiler ta figure, le sourire excepté. Il sculpte et peint et photographie, année après année, des poupées désarticulées, bras, jambes et têtes et sexe et seins amalgamés. Elle tombe malade, donc on l'enferme dans un château et elle écrit l'histoire de sa maladie. Il dit qu'il faudrait pouvoir préserver la trace que laisserait un nu projeté par la fenêtre sur le trottoir. Elle se projette par la fenêtre, à peine ralentie par la vitre dont les éclats l'accompagnent dans sa chute. Suicide réussi, gisant sur le trottoir, elle parvient enfin à ressembler à une sculpture de l'homme qu'elle aime.
Nancy Houston, Histoire d'Omaya.
Il s'agit de Hans Bellmer et Onika Zürn.
C'est ce qui s'est passé dans la vie de ces deux artistes ?
C'est ce qui s'est passé. Ce sont des citations réelles, notamment du livre d'Onika Zürn qui s'appelle L'homme jasmin. Et il l'a traitée réellement comme une de ses poupées. Il la ligotait et la faisait poser dans des positions impossibles, comme ça, toutes ficelées, dans des chaises. Voilà. Et elle a fini comme ça. C'était un livre difficile à écrire. C'était le contraire de l'euphorie estivale des variations Goldberg. Et ça n'a eu aucun succès. Je me rappelle très très bien Tony Roche me disant que la seule chose qui comptait, c'est que j'avais écrit un beau livre et qu'il était fier d'avoir publié un beau livre. J'écrivais, oui, avec mes tripes peut-être pour la première fois, et quand on fait ça et qu'on n'est pas du tout entendu, ça fait mal.
En 1989, Révolution intérieure, vous vous remettez à écrire directement en anglais pour la première fois depuis 20 ans. Vous êtes à l'époque assoiffé d'innocence théorique. Vous voulez faire des phrases libres et dépenaillées, explorer tous les registres de l'émotion et pourquoi pas le pathétique, raconter des histoires au premier degré avec ferveur, en y croyant, sans redouter les commentaires narquois des fans de Barthes ou de Pérec. Vous voulez croire en l'amour plutôt que de discourir sur l'amour. Votre roman « Cantique des plaines » se déroule dans votre province natale, l'Alberta, ce pays du grand ciel, aux nuages violets qui cherchent à se faire prendre pour des montagnes. Il se déroule à l'époque des premiers colons européens, en évoquant le viol et la prostitution des femmes autochtones, le kidnapping, la conversion forcée et la mort en pension catholique des enfants amérindiens.
c'est le livre d'un tournant dans ma vie provoqué par la rencontre d'un poète et peintre haïtien, Jacques Ray Charlier, que j'ai rencontré au Moulin d'Andée. Jackie est devenu un ami vraiment très important pour moi. Et quand Jackie m'a raconté et fait lire l'histoire d'Haïti, il m'a fait découvrir des auteurs comme Aimé Césaire et beaucoup d'autres. Ça m'a fait m'interroger sur l'identité, pourquoi est-ce que son identité haïtienne comptait tellement pour lui alors que c'était infernal, son pays. Mon identité canadienne comptait pour des prunes pour moi alors que c'était paradisiaque, mon pays à moi. J'ai fait un grand reportage pour France Culture qui s'appelait « Île en exil » où j'ai interviewé des gens de la diaspora haïtienne, Montréal, New York, etc. J'ai réussi à m'intéresser à l'histoire de mon pays grâce à Haïti. J'ai compris que l'Alberta était la fin d'une histoire qui avait commencé en Haïti, c'est-à-dire l'île de Hispaniola en 1492 avec le débarquement de Colomb, qui était un esclavagiste. On repousse les Indiens, on les massacre, on les met dans des réserves, etc. On arrive à la côte ouest et ensuite on construit le chemin de fer et on revient à travers les Rocheuses. Et la fin de cette histoire, c'est chez moi. C'est en Alberta, au début du XXe siècle. L'Alberta commence à faire partie du Canada en 1905. C'est une des dernières provinces à rejoindre la Confédération. Je comprends que je peux raconter l'histoire de mon pays avec l'histoire d'un seul homme qui va naître en 1900 et qui va mourir à la fin du siècle. Et il va comprendre, lui, grâce à une femme autochtone qui va aimer et qui va lui raconter l'autre version de son pays. Ma façon de lire l'histoire a changé grâce aux recherches que j'ai faites pour Cantique des Plaines. J'ai donc découvert à mon horreur l'histoire de tous ces enfants autochtones kidnappés, forcés de les transporter dans des écoles, des pensions catholiques, où ils mouraient comme des mouches, entre autres parce que le régime était sans viande. On leur donnait des porridges alors qu'ils avaient l'habitude de bison. Et ils ne supportaient pas d'être enfermés dans des pièces surchauffées. On leur interdisait de parler leur langue. C'était l'horreur totale, chez moi.
Calgary était devenue folle. Un quart de million d'êtres humains déferlaient en une vague sans fin pour fêter leur bonne santé physique et financière. La force et la virilité de leur jeune pays, le fabuleux folklore de l'Ouest. Des deux côtés de la 8e avenue, les adultes se massaient et se pressaient. Ta tête leur arrivait à hauteur de poitrine et tes narines étaient emplies de l'odeur de leurs aisselles. Pour voir défiler, tout au long de la matinée, l'histoire faramineuse de cette province qui, à peine 7 ans plus tôt, n'était pas une province du tout, et encore un simple territoire du Nord-Ouest. Ce fut aux Indiens de donner le départ. Tu n'avais encore jamais vu de vrais Indiens vivants, n'est-ce pas, Patton? Et voilà qu'ils étaient là, devant tes yeux, posés et composés, assis sur des chevaux ou debout sur des chars tirés par des chevaux. Des chefs Blood et Stoney et Blackfoot et Sarcy, dans leurs plus beaux atours guerriers. Les coins de la bouche sévèrement recourbés vers le bas, une fantastique coiffure de plumes colorées leur dégringolant dans le dos jusqu'au dos nu de leur monture, de jeunes braves musclés à la poitrine glabre et aux jambières de cuir, le visage badigeonné de rouge, brandissant toutes les armes possibles et imaginables depuis le couteau jusqu'au tomahawk en passant par le revolver et le fusil à répétition, parce que c'était seulement du faire semblant. Ils ne voulaient plus nous scalper pour de vrai. Il y avait aussi de jeunes squaws modestes en jupe de cuir frangée et en veste décorée aux perles de verre, leurs longues nattes noires tapotant doucement contre leurs seins. Tous saluaient de la main, d'un air perplexe, les foules qui les avaient vaincus hier et qui aujourd'hui, dans un état proche du délire, lançaient en l'air des milliers de Stetson blancs pour fêter leur illusoire retour.
Nancy Houston, Cantique des Plaines.
Je me documente énormément. Je fais presque autant de lectures scientifiques ou historiques que littéraires. Ma province est une des pires. C'est des gens qui détruisent les forêts, qui exploitent les sables bitumineux pour 1 million de barils de pétrole par jour, qui donc sont très, très, très coupables dans le réchauffement de la planète. Et pour cela, ils ont transgressé absolument tous les traités. C'était des terres indiennes. On a donné à un des chefs Crow comme un cadeau parce qu'il a accepté de signer un des traités. Évidemment, ces traités ont été systématiquement transgressés par les Blancs que nous sommes. On donne à ce chef un cadeau qui est de traverser le pays sur le chemin de fer, de prendre le train jusqu'à Montréal. Et je raconte ça en 1 ou 2 pages dans le livre, comme à quel point ça a dû être la catastrophe pour lui de se rendre compte que ce n'était pas juste quelques Blancs et quelques autres Blancs et quelques autres, mais qu'ils avaient construit leur immeuble épouvantable sur tout le territoire, qu'il y avait des villes qui montaient comme des champignons partout et qu'ils étaient en train de courir dans tous les sens et de mettre de l'asphalte partout, de tout détruire, de tout dénaturer.
Pour chaque roman, vous vous lancez un défi formel. Pas pour être maligne, mais pour trouver la contrainte qui vous donnera le maximum de liberté.
Je dois me sentir soutenue par une structure, mais un peu comme le filet qui est sous l'acrobate. Je dois quand même faire mes acrobaties là-haut sur le fil.
Pour votre roman « Une adoration » en 2003, vous avez vécu un faux départ assez catastrophique. Vous avez travaillé 5 mois dans le malheur total en sachant que ce n'était pas ça. Vous avez balancé 150 pages à la corbeille et arrêté d'écrire pendant 2 mois. Et ça a été merveilleux. Dans un film de Jonas Mekas, vous avez vu un haïku du 12e siècle japonais qui disait « J'ai dormi tout l'après-midi et personne ne m'a puni ». Apprendre à être heureuse dans une inaction créative totale fut une belle leçon, car l'inconscient continue de turbiner, et vous vous êtes réveillé un matin avec la structure, celle de l'audition, avec tous les personnages qui défilent à la barre d'un tribunal pour parler de l'assassinat d'un performeur. Ils, elles, s'adressent à un juge, ce qui confère une urgence à leurs paroles.
Voilà pourquoi, justement, on apporte des fleurs aux obsèques. Parce que ce sont des organes reproducteurs. Parce que la vie est fugace et la mort éternelle. Et qu'on a besoin de couvrir l'éternité de fugacité. De noyer la neutralité incolore et inodore de l'inexistence permanente avec les brillantes couleurs et les fortes odeurs du maintenant. Sexe, fleurs, corps, pléthore, mouillure. Rouge, sens, sueur, aisselle, cyprine, sperme et battement, allaitement et cri. Oui, nous sommes en vie et nous crions d'être en vie. Regarde, mon amour, regarde. Nous ne sommes pas encore morts. J'ai lu une fois un reportage sur My Lai, le massacre de tout un village de civils vietnamiens par des troupes américaines qui avaient paniqué et tiré dans le tas. Le reportage était écrit par une femme. Elle racontait qu'ils étaient allés à plusieurs journalistes faire une enquête à My Lai, quelques mois après le massacre, et qu'ayant vu ce qu'il y avait à voir, ayant rouvert la fosse récente, où étaient jetés en vrac plus de 100 cadavres d'hommes, de femmes et d'enfants, ils s'étaient livrés au bord de la fosse à une orgie insensée. Et je la crois, cette journaliste, quand elle dit que leur corps avait fait ça tout seul. Que devant cette preuve flagrante de la mortalité, tous avaient été galvanisés par un élan sexuel sans précédent et s'étaient mis à baiser aveuglément en vrac. Répondant simplement au besoin de hurler « Vie, vie, vie !» face à la mort.
Passons maintenant à votre dernier roman en date, Francia. Le roman décrit, en 2019, une journée dans la vie d'une prostituée transsexuelle colombienne du bois de Boulogne, une travailleuse du sexe qui fut jadis Ruben, devenue Ruby, surnommée Francia. Vous alternez des flashbacks sur son enfance, son opération, son arrivée en France, son quotidien de prostituée, ses conditions de travail dans son campement de plastique, sa philosophie, ses amours, ses joies, ses peines, et de petites biographies de ses 17 clients, dont un membre de l'Académie française, psychorigide et faisandé. Vous avez, ai-je lu, inventé ce personnage à partir de beaucoup de recherches, d'un fabuleux voyage en Colombie et de visites. De visites au bois de Boulogne, en camionnette ?
Oui, il y a plusieurs camionnettes qui sillonnent le bois tous les soirs et qui appartiennent à différentes associations. Et moi, j'ai été invitée il y a quelques années à participer à ces maraudes grâce à un ami qui en faisait régulièrement. C'est véritablement la camionnette de l'association Magdalena.
La camionnette de votre roman est également baptisée Magdalena, c'est-à-dire Madeleine en espagnol, en référence à Marie-Madeleine, cette sainte considérée par le Vatican comme l'apôtre des apôtres de Jésus, à laquelle on attribue parfois un passé de prostituée.
J'ai essayé de changer ce nom-là en fuchsia dans la première version du livre, parce que c'est la couleur un peu entre deux sexes, c'est un mélange de garçons et filles, et puis ça pouvait être une démarche féministe et écuménique, etc. Mais dans la réalité, c'est important pour les femmes en question que ces camionnettes soient gérées par des gens qui apportent du réconfort chrétien. La grande majorité sont très croyantes et pratiquantes catholiques, donc débarquer avec l'idée de fuchsia, je crois que ça ne leur parlerait pas du tout et ça ne les toucherait pas. Et donc mon personnage est né au bord d'un immense fleuve en Colombie qui s'appelle le Magdalena. Et comme sa sainte préférée a toujours été Marie-Madeleine, je me suis dit, c'est surdéterminé, je ne vais pas changer ça.
Combien de visites avez-vous faites ?
7-8, quelque chose comme ça, sur 2 ans, à différentes saisons, nuit et jour aussi.
Et le personnage lui-même de Francia est un composite de plusieurs personnes trans ?
De plusieurs personnes, dont des trans, oui, et aussi beaucoup d'imagination.
Vous intervenez dans le récit en vous surnommant la Griffonne. Le roman est précédé d'un préambule assez surprenant de votre part, écrit à la première personne. Vous vous demandez si vous avez le droit de vous glisser dans la peau d'un personnage qui vous ressemble si peu. Vous vous décrivez en novellista névrosé sans foi ni loi, ni racine ni pays. Puis vous allez jusqu'à vous comparer à une pute du cerveau, prête à tout du moment que ça rapporte de la matière pour un livre. Et vous finissez par une mise en garde, un traumavertissement, comme on dit au Québec, nature sensible à s'abstenir. Ce que je ne comprends pas bien, c'est ça. Vous avez publié, en tout, c'est incroyable, 69 livres. Vous vous êtes glissé dans la peau de plus d'une centaine de personnages qui ne vous ressemblent parfois pas du tout. Vous avez la confiance du public, de la critique, on vous étudie à l'université, vos engagements politiques forcent le respect, et vous avez écrit, on l'a vu, des romans autrement plus violents. S'il y a bien quelqu'un qui a le droit sur le plan littéraire de s'essayer à être quelqu'un d'autre, c'est vous, non ? À longueur d'interview, depuis 40 ans, vous réclamez ce droit. La seule chose qui compte dans ce débat sur la légitimité, c'est... Avez-vous bien travaillé ? Est-ce que l'autre est représenté de manière subtile et renseignée ? Pourquoi soudain douter de votre légitimité ?
Ah, non, mais c'est entièrement ironique. Ah, moi, j'adore ce prologue. Et je l'ai vraiment écrit au tout début, parce qu'il y a beaucoup ce bruit dans l'air sur l'appropriation culturelle, etc. Donc c'était un peu pour blaguer, mais c'était aussi pour annoncer que j'avais envie d'intervenir dans l'intrigue cette fois-ci. Mais le traumavertissement, ça c'est vrai que j'avais fait une visite au Québec, mais c'est un an après avoir écrit ce passage, les premières versions du prologue, à Montréal, dans un lycée. Au Québec, il y a ce qu'on appelle les cégeps, donc c'est des élèves entre 18 et 20 ans, avaient travaillé sur beaucoup de mes livres. Et la personne qui allait m'interroger devant 700 jeunes personnes m'a avoué qu'elle avait dû renoncer à travailler certains de mes livres de peur de déclencher des crises chez des gens qui ont été traumatisés. Et elle m'a demandé si je ne pensais pas peut-être à l'avenir mettre un traumavertissement. Et le livre qu'elle avait renoncé à enseigner, c'était « Instrument des ténèbres », qui parle d'infanticide, qui parle d'avortement. J'étais tellement sidérée par cette suggestion. Là, j'ai décidé qu'il fallait donner un petit clin d'œil à cette possibilité. Mais pour moi, c'est entièrement ironique, je vous assure. Nature sensible, s'abstenir, On devait mettre un panneau dans les maternités et dans, au-dessus de chaque lit d'accoucher. On ne peut pas venir dans la vie si on est, voilà, si on est trop sensible.
J'en profite pour citer un passage de votre essai « L'espèce fabulatrice » où vous rappelez la fonction essentielle du roman. Réimaginer le monde, accueillir la possibilité du changement, mettre en scène la tension entre individus et société, entre liberté et déterminisme, encourager l'identification à des êtres qui ne nous ressemblent pas. Voilà son rôle éthique. Dans Francia, vous écrivez « L'art est soudé à la libido ». C'est la même énergie qui traverse le bras, le sexe ou le pinceau. Pourriez-vous développer un peu cette idée ?
Il y a quelque chose d'une énergie vitale, fondamentale, qui est mise en branle quand on commence à écrire. Et c'est aussi pour ça qu'on a besoin d'être seul et qu'on a besoin d'être complètement disponible à ce qui vient. C'est un acte très privé, très intime. Quand les gens me demandent ce que je prépare, et je réponds, c'est comme si vous me demandiez si je fais l'amour en ce moment. Enfin, ce n'est pas vos oignons. S'il y a un résultat sous forme de bébé ou de bouquin, vous le saurez. J'ai envie de raconter une histoire qui peut être indiscrète, mais je ne crois pas. Un de mes écrivains préférés au monde, c'était Göran Tunström, un romancier suédois. Il est décédé il y a 25 ans. Et on était en contact parfois par téléphone dans les derniers mois de sa vie. Il me disait, je n'arrive plus à fantasmer, érotiquement, sexuellement, c'est la mort. Je crois que je vais mourir. Et je crois qu'il a raison. Il n'arrivait pas à écrire non plus. Et la perte de ces deux choses était pour lui le signe que son corps fermait boutique.
Si vous me permettez cette confidence, j'ai déjà ressenti en écrivant des montées d'excitation sexuelle alors que la scène que j'essayais de coucher sur le papier n'était pas particulièrement excitante. Est-ce que ça appartient à la même zone du cerveau, la libido et la créativité? Je ne sais pas comment le dire de manière plus intelligente que ça.
On va consulter nos amis neurologues, mais moi je suis comme vous en tout cas.
Sur ce que vous procure l'écriture physiologiquement, vous avez dit « En général, quand j'ai vraiment quelque chose à dire, je ne me sens pas bien. En ce moment, je me sens bien, donc je n'écris pas. Je suis trop bien dans ma vie, trop curieuse de ce qui se passe dans le monde, je fais plein de petites choses liées à mon travail, mais je n'écris pas. Parce que je ne souffre pas. Écrire part toujours d'une sorte de tension ou d'angoisse, souvent accompagnée de symptômes physiques, insomnie, maux de tête, maux de ventre. À chaque livre, les siens.
Ma première phrase en français, j'ai mal à la tête.
Pour vous, la création est liée à la destruction. Vous avez parfois eu envie de donner des cours de destructive writing, d'écriture destructive. L'idée est vraiment très marrante. À quoi cela pourrait-il ressembler ?
Mais il faut savoir défaire ce qu'on a fait aussi. Au moment où je tournais autour de la virevolte, j'avais balancé tout un début de manuscrit dans la cheminée. J'avais un petit studio avec une vraie cheminée et des feux de bois et j'avais brûlé le manuscrit. C'était vraiment violent. Je l'avais effacé de la mémoire. J'avais jeté à la corbeille.
De votre ordinateur.
Et ensuite, j'ai demandé l'aide d'un geek ami pour m'aider à retrouver certains petits passages qui sont devenus le départ de la virevolte telle que j'ai pu finalement l'écrire. C'est important ces moments-là aussi. Ça fait partie du processus et il ne faut pas en avoir peur. Il ne faut pas faire comme si chaque phrase, chaque page qu'on écrit devait forcément être définitive ou bonne, parce que le reste, ça devient le terreau fertile pour les fleurs qu'on va vraiment réussir à faire pousser.
Arteradio.com.